Du lundi au vendredi, on en parle, 8h35 sur la première.
L'Union centrale suisse pour le bien des aveugles, l'UCBA, a mandaté une enquête pour mesurer l'impact d'un handicap sensoriel sur la vie de couple. Cette étude, intitulée CELODY, S-E-L-O-D-Y, elle est menée par l'Université de Zurich et la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, la HESSO. Et de cette étude, nous en avions parlé lors de son lancement dans notre émission, Jérôme Zimmermann. Et les résultats de cette étude sont tombés.
Oui, cette étude s'intéressait en particulier au partenariat ou la vie de couple quand un des conjoint est subitement touché par un handicap visuel ou une surdicécité ou bien quand cet handicap sensoriel s'aggrave. J'en profite pour rappeler quelques chiffres. Selon l'UCBA, 4,4% de la population suisse est atteinte dans sa capacité à voir. Ça représente 377 000 aveugles ou malvoyants et à l'horizon 2030, ça devrait grimper à un demi-million de personnes. Quant aux problèmes d'audition, ils concernent plus d'une personne sur 10 actuellement dans notre pays et là aussi, ça devrait aller à la hausse. Et j'en reviens à Célodie, quand nous avions évoqué le lancement de cette étude dans l'émission, nous avions eu l'occasion d'entendre le témoignage de Vincent Ducommun qui a un problème de vue depuis sa naissance et qui est en couple depuis plus de 30 ans avec sa compagne avec qui il a eu deux enfants. Je vous propose de réécouter un extrait.
Des fois, ça peut m'arriver d'en avoir évidemment ras-le-bol, justement d'être stressé, fatigué par mon problème de vue parce que c'est quand même une réalité que ça stresse plus. Donc des fois, je peux effectivement peut-être m'énerver, dans le sens où j'ai l'impression de ne pas être suffisamment compris par ma conjointe. Et elle, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire, ça arrive rarement, mais de temps en temps, sentir un peu le poids du fait que là, elle devra être en soutien. Typiquement, pendant les vacances, la conduite automobile, je vois bien qu'au bout d'un moment, elle en a marre. Elle aimerait bien idéalement que, avoir un mec qui prend le volant et puis qui fait ses 2 heures de conduite, et je peux pas. Puis elle le sait très bien, elle va pas me le reprocher, mais elle doit faire avec. C'est soulageant, sans aucun doute, d'avoir un conjoint, une conjointe qui nous connaît bien et donc qui, de ce fait, est censée bien nous comprendre. D'un autre côté, je pense qu'aussi, une personne qui est seule, elle aura plutôt tendance à trouver des solutions, justement, à l'extérieur. Peut-être que des fois, sortir le handicap du couple est une bonne chose aussi. Raison pour laquelle je parlais de cette démarche que j'ai envie de faire peut-être, de déléguer à l'extérieur des tâches, parce que comme ça, on se sent plus d'égal à égal. Ce serait terrible de se sentir, entre guillemets, proche aidant dans un couple. Enfin, moi, j'aimerais pas ça, ou j'aimerais pas percevoir ça chez ma conjointe, disons.
C'était Vincent Ducommun dont vous aviez recueilli le témoignage, Jérôme. On l'entend, le handicap sensoriel peut peser dans un couple. Mais dans quelle mesure? Eh bien, c'était l'objet de cette étude, l'étude CELODY. Et pour parler de ses conclusions, nous accueillons Romain Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Ergothérapeute et doctorant à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne. Et vous êtes membre de l'équipe de la HESSO en charge de la partie romande de cette étude CELODY. Alors on peut-être rappeler, préciser qui était concerné par cette étude, quel type de couple, quel âge, quel handicap?
Alors en fait, on s'est intéressé à tout type de couple. À partir du moment que les personnes estimaient être en couple, on a pu les intégrer dans notre étude. Bien sûr, c'était sur la base du volontariat. Donc il y a eu à peu près plus d'une centaine de couples qui ont participé à l'ensemble de l'étude CELODY. Pour la partie romande de l'étude, on a eu 16 couples qui habitent tous en Suisse romande, qui ont donc participé. On a réalisé des entretiens de couple avec chacun d'entre eux, avec toujours 2 chercheurs pour réaliser ces entretiens. Et puis donc ça s'est étalé sur l'année 2019-2020. Et puis on a dû faire avec les mesures sanitaires, bien sûr, ce qui a un petit peu décalé l'étude. Et en tout cas, les résultats sortent un petit peu plus tard pour cette raison.
Alors puisqu'on parle de résultats, c'est l'heure d'aborder les principales conclusions de cette étude, CELODY.
Tout à fait. Alors, il y a bien sûr plusieurs résultats et puis on voudrait mettre en avant certains résultats. Le premier étant que la déficience sensorielle, que ce soit visuelle ou auditive, ça reste un événement majeur pour le couple. Donc comme Vincent Ducommun l'a rappelé, le couple est concerné, pas uniquement la personne qui présente cette déficience. Donc événement majeur, pourquoi? Parce que ça remet en cause, ça questionne l'identité du couple. Ce que nous on entend par identité du couple, c'est la manière dont le couple en fait organise ses différentes activités. société. Vous savez, on va dire pour caricaturer qu'on connaît tous un couple fusionnel, entre guillemets, où les gens sont toujours ensemble, d'autres couples où l'idée c'est ben, moins on se voit, mieux on se porte. Et ben finalement, si la déficience sensorielle amène à questionner ça, ça veut dire qu'en raison de cette déficience, ben, les couples qui sont fusionnels vont devoir s'éloigner parce qu'il y a des soins qui doivent être réalisés par les soins à domicile, ou dans l'autre sens, si voilà, on a l'habitude d'être plutôt indépendant, et ben on se retrouve dans des situations dans lesquelles on est ensemble parce que c'est le ou la conjointe qui prodigue les soins. Là, ça devient compliqué pour les couples à gérer. Maintenant, aussi quelque chose de très important, c'est rendu compte en interrogeant les couples que finalement cette événement s'inscrit dans l'expérience du couple, c'est-à-dire que quelque part, ça peut être aussi un aléa comme un autre, c'est pas qu'il n'est pas important, c'est juste que beaucoup de couples ont vécu d'autres événements critiques dans leur vie. Je pense à peut-être un sevrage à l'addiction à l'alcool, ou la retraite, ou un licenciement économique, et en fait, certains couples donnaient autant de place à ces autres événements qu'à la déficience sensorielle, et puis bah, pour eux, clairement, affronter, faire face à ces différents événements, c'est grâce aux différentes expériences qu'ils ont eu dans leur vie. Donc c'est un événement majeur, mais peut-être un aléa comme un autre.
À propos de la solidité des couples qui traversent ce genre de situation, qu'est-ce qu'on peut en dire là? Le risque de séparation est vraiment accru, ou au contraire, peut-être que les couples sont davantage soudés avec ces événements?
Alors on a vu un peu des deux. Et c'est vrai que je rejoins aussi ce que disait Vincent Ducommun, et puis ce que je disais un peu avant, c'est la relation au sein du couple peut évoluer, les rapports de dépendance en fait évoluent au sein du couple, avec le risque est que ben on l'impression que un ou l'autre conjoint se retrouve à être proche aidant en fait de son de sa partenaire. Et puis là, c'est là que ça devient compliqué, c'est que finalement un petit peu le contrat d'association qui est à la base du couple, la sédimentation on va dire des routines du couple, elle est un petit peu en phase de rupture. Donc là, le risque de séparation est accru parce que les deux conjoints ne retrouvent pas ce pourquoi ils se sont engagés dans le couple. A contrario, si finalement la déficience sensorielle permet au couple de renforcer son identité, donc de passer plus de temps ensemble alors que c'est ce que les conjoints aiment, ou permettent d'être chacun de son côté comme avant, là on peut même avoir un couple qui se renforce finalement.
Alors, ça peut aller jusqu'à se renforcer. L'étude CELODI vise aussi à émettre des recommandations hein, pour aider les couples dans ces situations. Les principales recommandations, ce sont lesquelles?
Alors, je vais en émettre deux principales. La première étant que il faut, en fait, les couples ne doivent pas hésiter à solliciter un accompagnement professionnel lorsque ça devient difficile justement de renégocier les différentes activités, de repenser le sens qu'elles prennent. Donc d'aller solliciter cet accompagnement, ça peut se faire aussi en contactant les différentes organisations d'entraide et de soutien. On parlait de l'UCBA qui a mandaté l'étude, mais ça peut être aussi des organisations cantonales. Donc contacter ces associations, ces organisations, ça permet en fait d'avoir accès à leur réseau. Donc
pour ça, quel type de, par exemple, d'activités en particulier, il y a des oublis, de faire appel à des associations d'aide?
Typiquement, je pense à un couple pour qui c'est important d'aller en montagne ou d'aller chercher des champignons, et puis l'idée du couple, c'est de continuer à faire la même chose. Donc madame qui présente une déficience sensorielle est dans un petit peu en souffrance, parce que finalement pour son conjoint, c'est normal qu'elle continue à accompagner la famille, aller chercher des champignons, et ça crée de la tension. Et typiquement, cette tension, un jour ou l'autre, elle va se manifester. Donc c'est, par exemple, pour ce genre de chose. Faire comme avant, ça n'est plus possible, il faut repenser ça, et lorsqu'il faut repenser ces activités, on peut solliciter un accompagnement.
Il y avait une deuxième recommandation?
Tout à fait, c'est que, alors, on en a discuté avec les couples, avec des experts-expertes qu'on a consultés tout au long de cette étude, c'est de proposer des formations justement aux différentes personnes qui interviennent auprès des couples, notamment donc sur tout ce qui est la thématique de la déficience sensorielle, déjà, être formé sur les conséquences au quotidien de la déficience, de dépasser en fait la déficience uniquement de l'œil, et puis aussi d'être formé sur tout ce qui est thématique de couple, qu'est-ce que ça implique au quotidien pour le couple et non uniquement pour la personne concernée.
Et pour conclure, Romain Bertrand, est-ce que ces conclusions, ces recommandations peuvent aussi s'appliquer à d'autres handicaps que sensoriels? Handicap moteur, par exemple?
Tout à fait. On s'est rendu compte que finalement, les processus qu'on a un peu identifiés dans ces lodis, c'est quelque chose qui peut être compris de façon analogue pour d'autres problématiques de santé. En tout cas, il y a des choses générales, bien sûr, sans remettre en cause la spécificité de la déficience sensorielle. Mais à mon avis, d'autres couples vont se reconnaître dans nos résultats.
Merci beaucoup, Romain Bertrand, ergothérapeute et doctorant à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne et membre de l'équipe de la HESSO qui a donc pris part pour la partie romande à cette étude CELODI, une étude dont les résultats ont donc été publiés tout récemment.
Au fur et à mesure, elle va être publiée tout au long du semestre 2022, premier semestre, et puis je profite juste pour dire qu'on va aussi avoir des petits formats vidéo très courts, accessibles aux personnes justement qui ont des déficiences, qu'on a tourné avec la FIRA, la Fondation Internationale pour la Recherche Appliquée sur le Handicap. Tout sera disponible sur le site de la HETSL.
Voilà, tout est dit. Merci Romain Bertrand.
Merci
On vous souhaite une excellente journée.
Merci Paris.